rituel aujourd'hui sera question d'un prêtre remarquable, vraiment un homme tellement extraordinaire. Vous direz que je trouve toujours des gens extraordinaires. Mais ceux qui connaissent Monsieur Portal, comme on l'appelait, comme on disait Monsieur Vincent, quand on parlait de Saint-Vincent de Paul, lui qui était lazariste, c'est-à-dire membre de la congrégation de la mission fondée par Saint-Vincent de Paul, eh bien, on l'appelait Monsieur Portal, c'était le père Fernand Portal, mort en 1926. C'était le collaborateur du cardinal Mercier, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, et de Lord Halifax, pour l'union des églises, particulièrement de l'église catholique et de l'église anglicane. Il a été ordonné prêtre le 22 mai, c'est l'anniversaire, 1880, à presque 25 ans. On les ordonnait bien jeunes, comme vous voyez, jusqu'à tout récemment d'ailleurs. Je vous ai déjà parlé aussi de Marcel Legault, il n'y a pas si longtemps, le 6 novembre dernier. Marcel Legault a bien connu le père Portal, Monsieur Portal, et dans un ouvrage sur Marcel Legault que je vous avais recommandé, Un chrétien debout, paru chez Mediapol, par Henri du Halgouet, il est bien dit à la page 7 que Fernand Portal était un pionnier bien connu dans le mouvement œcuménique, encore dans les limbes, au tout début, quoi. Fernand Portal, prêtre lazariste, avait eu des contacts suivis avec Lord Halifax de l'Église d'Angleterre. Pendant les dernières années du 19e siècle, donc il y a plus de 100 ans, en vue de préparer l'union organique des églises anglicanes et catholiques romaines, et quelques années plus tard, victime de la répression antimoderniste. Il y a eu une répression antimoderniste dans l'Église, car Saint-Pie X considérait que, avec bien d'autres, qu'il y avait dans l'Église des gens qui risquaient de perdre la foi, d'après eux. Et ils ont fait une répression, et ils ont réprimé ce pauvre Monsieur Portal sous prétexte de son ouverture d'esprit. Puis il avait même été déchargé de sa responsabilité à l'Institut catholique de Paris, c'est-à-dire à l'Université catholique de Paris, il avait un poste important. Puis après la Première Guerre mondiale, il vivait à Paris comment? Dans une semi-retraite, active, comme conférencier, prédicateur, conseiller d'étudiants, spécialement de ceux de Normale Sup, comme on dit, l'école normale supérieure. Et puis, Portal a beaucoup aidé Marcel Legault, en particulier par un contact direct avec la Bible et surtout l'Évangile. Pour lui, c'était une toute nouvelle manière d'aborder sa foi. Aller vers la Bible et surtout les Évangiles. Ça vous donne une idée de la foi profonde dans les Saintes Écritures qu'avait ce Monsieur Portal, ce lazariste. Quand il s'est présenté en 1896, le 13 juillet, à Londres, devant une assemblée composée en majeure partie de prêtres anglicans, pour essayer d'unir les deux églises, il avait dit à ses prêtres, qui étaient sans doute en soutane, hein, vous savez, les prêtres anglicans portaient la soutane, « Celui que vous voyez devant vous est un prêtre français, humble fils de Saint-Vincent de Paul. » C'était pas une mauvaise idée, devant ces prêtres anglicans, parce qu'il mettait de l'avant son titre de lazariste, son titre de membre de la congrégation de la mission, fondée plusieurs siècles plus tôt. Il recourait simplement à un procédé, quoi, destiné à attirer la bienveillance de tout un auditoire anglican, parfois de tendance protestante, qui risque d'avoir été indisposé par la récente encyclique de Léon XIII. Léon XIII avait briser les tentatives de rapport un peu entre les anglicans et les catholiques par son encyclique Satis Cognitum. Mais il sait, M. Portal, que les prêtres anglicans sont sensibles au renom d'un saint comme Saint-Vincent de Paul. Un jour, je suis allé dans la paroisse Saint Mary the Virgin, paroisse de la Haute Église anglicane ou épiscopalienne à New York. on m'a remis à l'entrée un feuillet pour trouver dans le Book of Common Prayer les chants qu'il fallait chanter durant cette messe. La messe était diacre, sous-diacre, avec barrette, dalmatique. Il y avait des confessionnaux, des religieuses. On ne vendait guère que des ouvrages catholiques romains à la porte et les encycliques du pape. Sur cette feuille, il était dit que l'on célébrait durant la semaine plusieurs fêtes de saints du 19e siècle, comme Saint Jean Bosco. Curieux. Alors, pas de doute, il se glisse un peu de calcul dans le choix des premiers mots de M. Portal aux prêtres anglicans quand il dit « Celui que vous voyez devant vous est un prêtre français, humble fils de Saint-Vincent de Paul. » Mais il y a plus encore. C'était là une sorte de profession de foi, c'était l'expression d'un profond attachement à l'esprit et à l'œuvre de M. Vincent, le fondateur de sa congrégation. Et pour les biographes, et pour tous ceux qui ont consacré un article, même simplement à la parenté spirituelle du père Portal avec M. Vincent, était tellement évidente qu'ils n'ont pas jugé nécessaire souvent d'insister sur elle. Et je voudrais insister aujourd'hui, parce qu'en fait, on fait des émissions religieuses ici à Radio Ville-Marie. Les auditeurs de rencontres spirituelles aiment bien voir la vie spirituelle de ces gens dont je vous parle. Et c'est un des aspects essentiels de la physionomie de ce grand apôtre de l'union des églises. Et je crois que le rappeler n'est pas inutile. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé que Fernand Portal n'était pas à sa place dans la famille religieuse de Saint-Vincent. Il était trop original. Original, c'était un homme de foi. Évidemment, la personnalité puis le rayonnement de ce prêtre suscitent autour de lui, à l'époque, l'incompréhension qu'attire, quoi? La mesquinerie. C'est presque normal, la mesquinerie. Il faut dire que les Lazaris, qui à cette époque parlent du père Portal à de futurs Lazaris à des jeunes, ont peut-être trop insisté sur l'aspect extérieurement extraordinaire qu'a pris le ministère du père Portal. D'abord, ils sont poussés, ces lazaristes qui forment les autres, sont poussés sans doute par un besoin instinctif de faire valoir l'un des leurs. Un fils extraordinaire de M. Vincent de Paul, aux yeux de ces jeunes qui se destinent à entrer dans sa congrégation. Et puis, il faut bien le dire, à l'intérieur de sa congrégation, l'action apostolique du père Portal provoque une admiration qui s'accompagne d'une certaine crainte, surtout à l'époque, on était tellement craintifs. C'est la crainte que suscite son intérêt pour une église schismatique, hérétique, l'église anglicane, comme on disait à l'époque, c'est terrible. Comme aussi ses relations avec des personnalités du monde intellectuel, dont les idées théologiques et philosophiques sortent de l'enseignement commun aussi. On était tellement strict à l'époque. Il s'est même trouvé des lazaristes pour mettre en doute l'orthodoxie de M. Portal. Pourtant. C'était un saint. Je vous assure, sa vie est la vie d'un saint. Les archives de sa congrégation ne sont malheureusement pas très riches en ce qui concerne Fernand Portal. Mais elles contiennent suffisamment de documents pour que l'on comprenne que chez quelques-uns de ses confrères, le père Portal rencontre sinon de l'hostilité, du moins de l'incompréhension. Et le passage d'une lettre qu'il adresse à son supérieur général, le 12 mai 1912, est assez tristement éloquente à ce sujet. Il a 56 ans à ce moment-là, un homme d'âge mûr qui a beaucoup fait pour l'Église. Et il écrit « Lorsque j'ai dû quitter le séminaire Saint-Vincent de Paul, sur l'intervention de son éminence le cardinal Méry Delval, qui était bien strict, ce Méry Delval, je ne vous raconterai pas sa vie, je pense pas. Je l'ai, mais j'ai pas l'intention. Alors, lorsque j'ai dû quitter sur l'intervention de son éminence le cardinal Méry Delval, qui n'invoqua pour m'écarter que la tentative d'union avec l'Église d'Angleterre, à laquelle j'avais été mêlé, Monseigneur Baudrillard, c'est un homme remarquable, m'écrivit que les mots de modernisme et de moderniste n'avaient pas même été prononcés à mon sujet. Il n'avait été question que de choses anglaises. Fallait pas frayer avec ces Anglais. Faut dire qu'il y a toujours eu une inimitié entre les Anglais et les Français depuis des siècles. Au moins des petites chicanes, quand c'était pas des guerres. Comme cette guerre qu'ils ont mené ici, sur les rives du Saint-Laurent, jusqu'à Québec, quand les Anglais ont bombardé Québec. Cela n'empêcha pas, dit M. Portal, quelques confrères, de dire que, et chez nous, de dire, et chez nous et chez les sœurs, les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, que j'avais été frappé comme moderniste, que j'avais été interdit et même, à un moment, chassé de la congrégation. Tout cela m'a été répété chez les sœurs. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, à son spirituel, j'ai courbé la tête sous l'orage et je ne me suis pas plaint. Les dernières lignes de cette citation dénotent une bonne dose d'humilité. Sa simplicité à cet homme, sa douceur, son zèle. Eh bien, Saint-Vincent, le maison de Paul, a voulu que ces qualités-là soient les facultés de l'âme, comme il disait, de sa congrégation. Et M. Portal était fidèle à Saint-Vincent de Paul. L'ensemble du passage laisse deviner, donc avec la souffrance de M. Portal, son attachement à sa famille religieuse, ses liens personnels avec elle. Ses liens personnels, d'ailleurs, ne se sont jamais relâchés avec sa congrégation. Il a toujours fait preuve d'une authentique obéissance à l'égard de ses supérieurs, tout en étant un homme extrêmement supérieur, et tout en l'imprégnant de cette loyauté, qui est l'un des aspects de la simplicité tant prônée par saint Vincent de Paul. Le 5 octobre 1913, à 58 ans, après avoir prêché leurs exercices spirituels aux filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul en Auvergne, il trace les lignes suivantes à l'intention de son supérieur général. « Je voulais aussi vous remercier de la retraite de l'Hôtel-Dieu de Clermont. J'en ai été très content et j'espère y avoir fait œuvre d'un fils de Saint-Vincent-de-Paul. Il ne dépend pas de moi de ne pas faire davantage. » Je ne vous ai refusé ni retraite, ni service quelconque, monsieur le supérieur. Il est vrai que je ne vis pas de la compagnie, mais je fais ses œuvres. Vous aviez bien voulu le constater, le reconnaître l'an dernier, après avoir lu la note que je vous ai remise. Alors cette conviction de se livrer à une activité conforme aux idées de saint Vincent de Paul accompagne toujours monsieur Portal au cours de son apostolat écuménique. On peut dire qu'en lui, fondateur de la Congrégation de la Mission, retrouve l'être qu'il fut lui-même, ce saint Vincent de Paul. L'homme qui a su entendre à travers les événements l'appel de Dieu. Si saint Vincent de Paul, qui en 1609 montait à Paris pour y chercher une bonne situation, vous savez, c'était un prêtre un peu ambitieux, saint Vincent de Paul, au début, il n'était pas converti, c'était un prêtre un peu mondain. Il cherchait une honnête retirade, comme il l'écrit lui-même, pour se retirer dans la richesse, un palais, en étant l'aumônier d'une grande famille. C'est sa propre expression, Saint-Vincent de Paul, une honnête retirade. Eh bien, il est devenu le créateur des prêtres de la mission, des dames et des filles de la charité, qu'on connaît, les sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul, hein, la chapelle de la médaille miraculeuse, là, à Paris, rue du Bac, on les retrouve, hein. Sainte-Catherine Labourée était membre de cette congrégation, la médaille miraculeuse. Et c'est parce qu'il a su lire à travers tel ou tel événement le signe de Dieu que Saint-Vincent de Paul s'est converti. Il a découvert la volonté du Seigneur et M. Portal, à sa suite, en a fait autant, vous allez voir. Nous allons maintenant entendre Sœur Marie Kérouze, qui chante en arabe, elle qui est une religieuse catholique, des chants sacrés melkites de l'église melkite qui est unie à l'église catholique romaine. Je vais se demander ce que disait M. Portal. Je vous cite une belle parole de lui, son amour pour Saint-Vincent, puis surtout pour les idées de Saint-Vincent de Paul. Il dit, M. Portal, Saint-Vincent de Paul disait à ses missionnaires, travailler à détruire les abus qui sont parmi les catholiques. Les protestants disparaîtront le jour où ces abus auront cessé. C'est une forme d'écuménisme un peu spéciale, mais c'est très justifiable en même temps. Hein? Et M. Portal ajoute, le fait est que l'union des églises, vous savez, on rêve de l'union de toutes les églises en une seule, hein? Déjà, l'Église catholique comprend 20 églises environ réunies. On vient d'entendre un chant melkite en arabe. Cette religieuse melkite est catholique. Elle appartient à l'une des églises unies à notre Église latine. Le fait est que l'union des églises serait réalisée si chaque église était parfaite, dit M. Portal. Il est donc tout naturel, et pour ainsi dire fatal, que la question se pose à mesure que la réforme s'opère. Car pour les églises comme pour les individus, la réforme, c'est la suppression des obstacles au développement de l'action divine. Comme quoi il est bien croyant. Il sait que c'est l'action divine qui va faire la réunion. Et il ajoute, il est impossible que cette action divine augmente, que les églises soient saintes, peuplées de saints, sans que l'Esprit de Dieu opère son œuvre d'union, lui qui est amour. On a essayé d'unir les églises par des forces extérieures et en juxtaposant plutôt qu'en unissant des corps qui restaient séparés malgré des liens factices. L'union qui se prépare sera faite par le dedans, par une nouvelle vie religieuse qui monte des profondeurs du christianisme, qui apparaît dans les différentes églises comme des sources différentes. Les eaux profondes d'une même nappe et elles se rejoindront pour former un même fleuve qui débordera dans le monde. C'est l'avenir de l'Église. C'est vraiment un visionnaire mystique et en même temps très concret. Donc la découverte de la volonté du Seigneur s'exprime dans des circonstances particulières. Et cela explique aussi toute la vie active de M. Portal, le Père Portal. C'est profondément vrai en ce qui concerne sa rencontre à Madère, sur l'île de Madère, près de l'Espagne, avec Lord Halifax. Par hasard, en 1889, Lord Halifax est là en repos pour essayer de sauver son troisième fils qui risque de mourir parce que l'humidité anglaise a déjà tué deux de ses fils âgés, des adolescents, des garçons de 20 ans. Alors, il est là avec un autre de ses fils. Et le Père Portal est envoyé à Madère pour s'occuper de religieuses, des sœurs de la charité. Et c'est comme ça qu'il rencontre cet hérétique et schismatique, comme on disait à l'époque. Alors, il y perçoit, lui, M. Portal, l'appel à son apostolat en faveur de l'union des églises. Chez le Père Portal, la vocation écuménique s'imbrique logiquement dans sa vocation de lazariste. Mais comment cela, lui, est-il venu? Il écrit, c'est très intéressant ça, « Mes goûts, mon caractère, tout me porte vers une congrégation religieuse. Et je n'ai maintenant qu'un désir, c'est de devenir un enfant de Saint-Vincent de Paul, un bon lazariste. » Voilà. Voilà comment il s'exprime dans une lettre adressée à ses parents et rédigée à la fin de ses études au petit séminaire de Montpellier, dans le sud de la France. Or, cet établissement était dirigé par des lazaristes depuis 1845. Écoutez bien ce qui va se passer. Le contact avec ces prêtres, il y a longtemps, 150 ans, s'ajoute à ses dispositions naturelles et l'oriente sans complication vers la congrégation de la mission, puis il y est reçu à 19 ans, le 14 août 1874, au jour même de l'anniversaire de sa naissance, puisqu'il est né le 14 août 1855. Ce qu'il n'a pas dit dans sa lettre à ses parents, c'est qu'il entre au séminaire du 95 de la rue de Sèvres pour se préparer à partir comme missionnaire en Chine. Il y a déjà un désir de d'amener au Christ des Chinois. C'est déjà un début. Ce même désir brûle encore en lui quand le 22 mai, l'anniversaire aujourd'hui, 1880, il y a près de 25 ans, il reçoit l'ordination sacerdotale dans cette chapelle qui abrite le corps de Saint-Vincent de Paul à Paris. Oui, au 95 rue de Sèvres, elle est là, quand vous allez à Paris, vous verrez le tombeau Saint-Vincent de Paul. Dans cette chapelle, donc, qui un jour va être le cadre des premières neuvaines de prières pour l'union des églises. Vous savez qu'on fait chaque année une semaine de prières pour l'union des églises à la fin du mois de janvier, dans toutes les églises chrétiennes. Eh bien, lui, il avait créé une neuvaine. De ce dernier fait, Fernand Portal est bien loin de se douter. En ce jour où l'Esprit-Saint par le sacerdoce, le 22 mai 1880 à 24 ans, cette Église, dont l'unité va devenir sa préoccupation, mais il va s'insérer dans cette Église par son sacerdoce, puis il va être préoccupé par l'union. Mais par son état de santé, le Seigneur lui laisse entendre, dans l'immédiat, qu'il veut, pour lui, un autre champ d'action que la Chine. Pas la Chine, non. Et les premières années de son ministère vont être vouées à l'enseignement. L'enseignement dans les grands séminaires, c'est très important. Hein? Il est assuré de faire la volonté du Seigneur, puis se donne à cette tâche délicate, très délicate, en vrai fils de Saint-Vincent de Paul. Et du coup, il marque fortement de son empreinte, je dirais moi de sa sainteté, nombre d'âmes sacerdotales. Si Monsieur Vincent, Saint-Vincent de Paul, quoi, a inscrit la formation du clergé comme deuxième but apostolique de sa congrégation naissante, c'est parce que, comme le lui démontrait l'expérience, là, les résultats des missions, vous savez, des prédications, des retraites prêchées dans les paroisses, ne pouvaient être prolongées et approfondies sans quoi? Sans la participation d'un clergé diocésain local, instruit et zélé, désireux de transmettre la foi en Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, l'amour pour Jésus-Christ. Pour mieux accepter la brisure de son rêve de missionnaire en Chine, M. Portal se rappelle cette intention de son fondateur Saint-Vincent. Souvent aussi, il relie tel ou tel passage des lettres et des entretiens où Saint-Vincent de Paul exalte le rôle des formateurs du clergé, comme nos sulpiciens ici au grand séminaire. Il en est un, en tout cas, qui s'applique bien au Père Portal, œuvrant dans les séminaires d'Oran en Algérie, 1880, de Nice, 1882, dans le sud de la France, là, de Cahors, en 1884. À l'un de ses prêtres, M. Vincent écrivait, en 1657, c'est beau ce chant à la gloire des professeurs, des formateurs de prêtres de la part de Saint-Vincent de Paul. Oh, que vous êtes heureux de servir à notre Seigneur d'instrument pour faire de bons prêtres et d'un instrument tel que vous êtes, qui les éclairer et les réchauffer en même temps. On dirait qu'à travers les siècles, ça s'adresse à M. Portal. En quoi vous faites l'office du Saint-Esprit? C'est l'année du Saint-Esprit, pensons-y, c'est la Pentecôte dans quelques jours. En quoi vous faites l'office du Saint-Esprit, à qui seul appartient d'illuminer et d'enflammer les cœurs? Ou plutôt, c'est cet Esprit Saint et sanctifiant qui le fait par vous, car il est résident et opérant en vous, non seulement pour vous faire vivre de sa vie divine, mais encore pour établir sa même vie et ses opérations en ces messieurs, ces jeunes hommes appelés au sacerdoce, là, appelés au plus haut ministère, qui soit sur la terre, par lequel ils doivent exercer les deux grandes vertus de Jésus-Christ, c'est à savoir la religion vers son Père et la charité vers les hommes. Les paroles de Saint-Vincent de Paul. Son affection, ou plutôt son affectation, excusez-moi, ce travail de formation des futurs prêtres, a l'avantage pour M. Portal de le plonger dans l'étude de la théologie morale et de la théologie dogmatique. Ça le prépare à sa vocation écuménique, on y arrive, petit à petit. Bien vite aussi, il se rend compte que l'enseignement de la théologie a besoin d'être rénové dans sa méthode et de s'appuyer davantage sur l'histoire. C'était déjà terrible quand je suis entré au grand séminaire en 1950, mais ça a bien changé depuis, heureusement. Je ne suis resté qu'un an. Je n'en pouvais plus. Ces séjours dans les séminaires, où il est placé, marquent bien des jeunes, surtout après sa rencontre avec Lord Halifax, ce grand anglican. Il est intéressant et savoureux même de lire comment, dans sa mémoire, Monseigneur Jean Calvet évoque 50 années plus tard son professeur qu'il a eu au grand séminaire de Cahors. Monsieur Portal avait l'esprit facile et souple. Il n'avait rien approfondi, il ne savait pas enseigner avec méthode, mais il avait des fenêtres ouvertes sur un très vaste horizon et un sens aigu de la portée humaine des problèmes. Voilà un bon professeur de grand séminaire. Je vous parlais de Monseigneur Calvet, qui a été l'élève de M. Portal, quand il enseignait à Cahors en 1884. Monseigneur Calvet rappelle, c'est très intéressant, c'est un souvenir, qui laisse entendre combien a été bienfaisant pour les séminaristes l'esprit écuménique de M. Portal à une époque comme celle-là, il y a plus de 100 ans. Il raconte, pour conférer avec le père Portal et voir de près la vie d'un séminaire français, Lord Halifax, je vous rappelle, anglican, de la haute église anglicane d'Angleterre, vint passer 8 jours au grand séminaire de Cahors, en France. Notre stupéfaction, il faut bien lire ça, c'est très intéressant, notre stupéfaction était grande de voir ce noble hérétique, c'est le mot, hein, assis au réfectoire à la droite de notre rigide supérieur, qui s'appelait Pierre Méhou, et qui va devenir supérieur provincial de Lyon. À la droite de notre rigide supérieur, donc, il y avait ce noble hérétique. Et il dit aussi, nous étions stupéfaits de le voir à genoux, à la chapelle, priant avec la ferveur d'un séminariste. Que de discussions en récréation sur la bonne foi des hérétiques et des schismatiques. Les hérétiques, c'est ceux qui croient des choses qu'on ne doit pas croire selon les données de la tradition dans la foi catholique et orthodoxe, d'ailleurs. Nous avons la même foi tous les deux, à peu près. Les schismatiques, mais ça, c'est ceux qui sont séparés, qui ont fait un schisme, qui sont séparés de l'Église catholique. C'était les termes qu'on utilisait à l'époque. C'était pas nécessairement méchant, mais ça avait une connotation pas très aimable. Donc, je reprends la phrase de Mgr Calvet. Que de discussions en récréation sur la bonne foi des hérétiques et des schismatiques sont nées de ce spectacle. Il en résultait pour l'esprit un élargissement. Alors, en 1899, le séminaire des Carmes à Paris, on l'appelle comme ça, le séminaire des Carmes, c'est le grand séminaire à Paris, n'est plus assez vaste là, pour abriter les jeunes prêtres qui viennent nombreux. Ils viennent suivre les cours de l'Institut catholique, de l'Université catholique. Un appel est lancé à la congrégation de la mission, c'est-à-dire aux Lazaristes de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, on met à la disposition des autorités du diocèse de Paris un local au 88 de la rue du Cherche-Midi, qui va devenir fameux. Et on cède aussi le père Portal comme professeur, et pour lui, comme supérieur même, et pour lui, en ce séminaire universitaire dédié à Saint-Vincent-de-Paul, donc au 88 rue du Cherche-Midi, la tâche est claire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Assurer aux prêtres étudiants non seulement un hébergement convenable, mais surtout, surtout, une vie spirituelle, dont l'inexistence risque d'être préjudiciable, évidemment, à la jeunesse trop prise par ses études. Il n'y a rien de pire que des jeunes prêtres qui se plongent dans les études et qui oublient la vraie vie spirituelle. Pendant près de 10 ans, le père Portal se donne donc à ce ministère auprès du clergé avec tout son cœur et tout son amour de l'Église. Il pratique alors ce qu'a fait M. Vincent de Paul avec ses fameuses conférences des mardis. Alors, tout en approfondissant ses connaissances ecclésiastiques durant ses années d'enseignement dans les grands séminaires, M. Portal intensifie son attachement à Saint-Vincent-de-Paul, son maître, qu'il aime tellement. De plus en plus, il aime en lui le prêtre qui, par des activités si nombreuses il y a quelques siècles et si diverses, a tant travaillé à la réforme de l'Église en France au XVIIe siècle. Et il le contemple sous cet angle, avec d'autant plus d'attention, qu'il sent combien la vocation de Lazariste peut mettre davantage au service de l'Église celui qui est appelé par Dieu à cette sublime vocation. Dans une lettre qu'il écrit de Limay, en Seine-et-Oise, où il se repose, après que ses adversaires ont réussi à lui faire enlever la direction du 88 de la rue Cherche-Midi, M. Portal dit à l'un de ses confrères, « Je vais rester ici bien tranquille, oui, je vais rester ici bien tranquille. Je vais écrire notre campagne des ordinations anglicanes. » Parce qu'il veut essayer de faire reconnaître que les prêtres anglicans sont vraiment des prêtres, comme nos prêtres. Alors il dit, « Je vais écrire notre campagne des ordinations anglicanes, pas pour la faire imprimer, bien sûr, puis, ou peut-être en même temps, j'écrirai une étude sur Saint-Vincent-de-Paul et l'Église, où je voudrais développer quelques idées qui me trottent dans la cervelle depuis assez longtemps. Il écrit de belles choses hier. C'est magnifique. L'Église, l'Église de Jésus-Christ, est le grand amour du Père Portal. Son dévouement au service de l'union des Églises en est-il l'expression concrète. Quand on aime l'Église, on la veut une. Selon le souhait de Jésus, c'est normal. Soyez un, dit Jésus. Pourquoi sommes-nous divisés en des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'églises? Ça n'a pas de bon sens. Les souffrances dont cet apostolat et l'occasion est conférée à son culte pour le corps mystique du Christ. Un caractère plus émouvant. Hein? Ça confère à son culte un caractère bien plus émouvant quand il parle du corps mystique. Ça explique aussi son efficacité malgré les échecs apparents. Mais ce qui doit être souligné, c'est l'esprit avec lequel M. Portal poursuit son œuvre pour l'union des Églises. Il sait parfaitement que l'union de toutes les Églises chrétiennes est un travail de longue haleine. Ben oui, M. Portal est persuadé que la toute première étape de la marche vers l'unité, c'est le rapprochement des esprits et des cœurs. Savoir se tendre la main. Savoir réciter notre Père ensemble. Savoir se visiter d'une église à l'autre. Savoir s'asseoir dans les bancs d'une église différente et chanter un chant, même si c'est en anglais pour nous Québécois. Quelle importance quand il est question de l'union des églises. Et sur ce plan encore, il est bien le digne fils de Saint-Vincent. Il a pleinement suivi les directives que M. Vincent de Paul donnait à ses premiers missionnaires. Entre autres textes, le fondateur des Lazaristes a écrit le 1er mai 1635, « L'on ne croit pas un homme pour être bien savant, mais parce que nous l'estimons bien. » Le diable est très savant, et nous ne croyons pourtant rien de ce qu'il dit. « Parce que nous ne l'aimons pas, » dit M. Vincent de Paul. Il a fallu que notre Seigneur ait prévenu de son amour ceux qu'il a voulu faire croire en lui. Faisons ce que nous voudrons. L'on ne croira jamais en nous si nous ne témoignons de l'amour et de la compassion à ceux que nous voulons qu'ils croient en nous. Aimons les Anglicans. Aimons les membres de l'Église unie. Aimons les évangéliques, les pentecôtistes. Oui, les baptistes. Aimons-les. M. Portal, qui a réalisé l'idéal tracé ainsi par M. Vincent, ne recherche pas les conversions individuelles, on le sait. Il souhaite, par contre, la réunion, encore, de l'Église anglicane à l'Église romaine. Il y a cependant eu au moins une circonstance où il a dû s'occuper d'une anglicane désireuse de passer au catholicisme. Une lettre du 19 novembre 1895 adressée au supérieur général des Lazaristes en garde le souvenir. Il raconte, une demoiselle anglicane âgée de 45 ans environ est venue à Paris pour se convertir. J'avais échangé deux lettres avec elle à la suite de mon travail sur les ordinations anglicanes. Dès qu'elle a été ici, elle s'est adressée à moi. La personne dont il s'agit est une personne sûre, fort instruite de la religion. Elle est la fille d'un prêtre anglican qui était très connu pour ses controverses sur le baptême avec un ministre protestant. Et le père et la mère sont morts, laissant à leurs enfants une situation indépendante et aisée. Alors, on devine combien ce serait agréable au cœur sacerdotal de M. Portal d'être l'instrument de cette adhésion à la pleine communion de l'Église. Mais par délicatesse pour l'Église anglicane, il fait appel à l'un de ses confrères. Après un entretien ou deux, j'ai prié cette personne de vouloir bien conférer avec un autre prêtre. Et je lui ai indiqué M. Allou. M. Allou était alors assistant de la congrégation de la mission des Lazaristes. J'ai agi ainsi pour ne pas me compromettre vis-à-vis des Anglicans, qui voient toujours de très mauvais œil les conversions individuelles. Je me souviens de l'évêque anglican de Montréal qui était tout surpris que je lui amène un membre de l'Église unie pour qu'il le confirme et qu'il le garde dans son Église parce que je ne voyais pas comment cet Anglais pourrait devenir catholique. Il n'aurait pas été un bon catholique romain. Il est devenu un grand anglican. J'espère toujours au fond de mon cœur qu'il devienne catholique un jour, c'est sûr. Il n'empêche pas que c'est le Père Portal qui fait les démarches nécessaires. Cette personne est maintenant prête à faire son abjuration. Alors à l'archevêché où je suis allé ces jours derniers de la part de M. Allou, On nous a donné tous les pouvoirs voulus, soit pour recevoir nous-mêmes, Michel ou moi, soit pour indiquer un autre prêtre pour recevoir cette abjuration. Ils n'ont pas besoin d'être baptisés, les Anglicans. Hein? Ben, jamais. Pas plus que les protestants. Ils sont déjà baptisés. Ils sont déjà membres de l'immense Église universelle par leur baptême. Et le père Portal, toujours respectueux à l'égard de son supérieur général, ajoute, j'aurais été heureux, mon père, que cette abjuration se fasse dans la chapelle de la médaille miraculeuse. Je ne sais si la chose est possible. Si elle l'est, je vous prierai de recevoir vous-même cette abjuration, qui sera un des premiers fruits de notre œuvre. En son supérieur général, M. Portal voit le successeur de Saint-Vincent de Paul, de M. Vincent, dont il se sent approuvé. Et l'apôtre de l'Union, comme on dit, quand on parle de M. Portal, l'apôtre de l'Union, a lu et relu ce qu'écrivait le 15 septembre 1628, ce grand saint de la charité qu'est Saint-Vincent de Paul. Voici le texte de Saint-Vincent de Paul. Il a plu à Dieu de se servir de ce misérable, c'est ainsi que M. Vincent se désigne. Les saints font ça souvent. Il a plu à Dieu de se servir de ce misérable pour la conversion de 3 personnes depuis que je suis parti. Il se trouvait alors à Beauvais. Mais il faut que j'avoue que la douceur, l'humilité, la patience, en traitant avec ces pauvres dévoyés, comme ceux qu'il appelle les hérétiques, imagine, sont l'âme de ce bien. Pourtant, il les aime, puis il leur donne des noms qu'aujourd'hui on ne donnerait jamais. Et Saint-Vincent de Paul ajoute, « J'ai bien voulu vous dire cela, ma confusion, afin que la compagnie voit que, s'il a plu à Dieu de se servir du plus ignorant et misérable de ses membres, il se servira plus efficacement de chacun de la dite compagnie. Il rêve de ramener au bercail des gens qui sont privés souvent des sacrements, dans des églises où on n'a plus l'Eucharistie. Il est un autre domaine dans lequel M. Portal s'est montré un authentique fils de Saint-Vincent de Paul, c'est en ce qui concerne l'harmonieuse synthèse de l'apostolat auprès des pauvres. Ça, c'est fantastique. Et de l'apostolat auprès des riches. L'image de M. Vincent se penche sur toutes les misères corporelles et spirituelles de son époque. Ça resterait superficiel, puis donc bien fausse, si l'on ne se rappelait pas que M. Vincent a mis aussi l'élite sociale, les gens riches de son temps, au service des malheureux. C'est comme ça qu'il a procédé, puis c'est comme ça que M. Portal va procéder. Eh bien, de même, ce serait mutiler la physionomie du père Portal que de ne voir en lui qu'un apôtre intellectuel de l'écuménisme. Et parce qu'il aime l'Église dans sa totalité, dans chacune des catégories de sa qui la constitue, là, les pauvres, les riches, les gens ordinaires, bien, M. Portal sera tout à la fois l'aumônier du misérable quartier de Javel et l'aumônier des normaliens à l'université, le supérieur d'un séminaire universitaire, puis le fondateur des Dames de l'Union qui sont des femmes à l'aise, qui s'occupent des pauvres. Il va être le prêtre qui catéchise des fillettes pauvres, le prêtre qui, dans sa maison de la rue de Grenelle, entre en contact avec toute une élite intellectuelle. Ah, c'est un homme fantastique. L'élite intellectuelle, il va la marquer d'une profonde empreinte, qu'il s'agisse de Jacques Chevalier à son époque, de Maurice Legendre, de Robert Garrick, pour ne citer que quelques laïcs, ou de l'abbé Godefroy, l'éminent minéralogiste, qui sera un jour doyen de l'Institut catholique de Paris, ou d'Eugène Tisserand, qui va devenir cardinal, ou bien que l'on aille de Jean Guiton, oui, Jean Guiton, l'académicien qui vit toujours, à Marcel Legault, le berger philosophe, à qui, comme je vous ai dit au début de l'émission, vers 1904, le père Portal disait, « Fondez un groupe, réunissez-vous et lisez l'Évangile. Lisez l'Évangile. » Ah, quand on va en Allemagne dans les églises luthériennes, on peut chanter ces belles cantates de Bach, comme ça. Et c'est très beau, ça fait de très beaux offices luthériens. Nos frères luthériens qui croient presque la même chose que nous maintenant, vous savez qu'ils ont développé depuis quelque temps une grande admiration pour la Vierge Marie, comme les Anglicans d'ailleurs, dont je vous ai parlé de la paroisse à New York, qui s'appelle Saint Mary the Virgin. Alors, les esprits supérieurs, les riches de l'intelligence qui viennent à M. Portal, qui est l'apôtre de l'union des églises, mais il veut les mettre au service de la vérité. Comment ça? La vérité qui va acheminer vers l'unité des esprits nécessaires à l'unification du corps mystique du Christ. Et c'est alors la vérité, le Christ, qui est un service de charité. et en même temps aux pauvres. Ah, ça, il veut qu'il s'occupe des pauvres en même temps, auxquels il prodigue son apostolat. C'est fantastique ce qu'il fait auprès des pauvres. M. Portal veut donner la preuve de cet amour de Dieu dont l'Église doit être la porteuse. On peut se demander lequel de ces ministères le Père Portal préférait, l'écuménisme ou les pauvres. Mais lui-même répond à la question. On le lit dans une lettre déjà citée, là, qu'il écrivait de Limay. Je ne pense plus guère au 88 de la rue du Cherche-Midi, là où il était, pour ainsi dire, recteur d'un grand séminaire. Je pense davantage, et avec plus de regret, à certaines réunions et à certaines œuvres qui faisaient vraiment ma vie. Je me demande si je dois renoncer définitivement à tout cela, à la revue des églises, à l'orientation de quelques jeunes gens dans le sens que nous avions adopté, aux travaux qui se faisaient autour de moi par mon impulsion assez souvent. Je ne voudrais pas y renoncer par seule crainte des ennuis qui pourraient en résulter pour moi, mais d'un autre côté, je ne voudrais pas rendre impossible mon action dans l'œuvre qui aujourd'hui me paraît la plus urgente. Je veux parler de Javel, c'est-à-dire ce quartier très pauvre où il s'occupe des plus pauvres. Le cœur de M. Fernand Portal est tout entier dans ces lignes. L'œuvre de Javel a commencé sur un appel de Dieu que le 19 avril 1907, M. Portal sut percevoir, comme M. Vincent à Châtillon-les-Dombes en 1617, comme M. Vincent avait saisi l'appel de Dieu d'où allait naître, n'est-ce pas, les dames puis les filles de la charité. Les dames, c'est des femmes chic, là, qui se sont mises à s'occuper des filles et des femmes abandonnées. C'est devenu les religieuses et filles de la charité, cette immense cornette sublime, là. Alors, aux femmes qu'il groupe d'abord à Javel, avant de les installer rue de Lourmel, M. Portal insuffle l'esprit de M. Vincent de Paul. Il fait d'elles des ouvrières actives au service de la charité et des âmes de prière au service de l'union des églises. 3 jours avant sa mort, il trouve encore la force d'aller visiter leur dispensaire d'Arcueil. Et c'est assisté de 3 d'entre elles que le 19 juin 1926, dans sa chère maison de la rue de Lourmel, il entre dans son éternité à 70 ans, presque 71 ans, l'âge que j'ai. Au lendemain de cette mort, dans un article consacré au Père Portal, Jean Calvet, Monseigneur Calvet, résumait ainsi l'esprit de Saint Vincent de Paul. Aussi éloigné de la présomption qui enjambe sur la Providence, étrange expression, hein? Aussi éloigné de la présomption qui enjambe sur la Providence que du découragement qui doute de Dieu, l'esprit vincentien, l'esprit de Saint Vincent de Paul, consiste à se tenir à son poste, tranquille, l'œil ouvert, l'âme ouverte, prêt à tout. Et dès que se manifeste un de ces signes de Dieu, on obéit, on se met à l'œuvre bonnement, rondement, simplement, comme le dit Saint Vincent de Paul, hein, bonnement, rondement, simplement, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire sur terre. Et c'est beau, ces textes. En appliquant cette description à Fernand Portal, qui l'a poussé à étudier Saint Vincent de Paul, Monseigneur Jean Calvet rend le plus bel hommage à ce lazariste, ce prêtre de la mission, dont, par ailleurs, il dit, M. Portal a joué un grand rôle dans notre vie religieuse de ce premier quart de siècle. Il a été le moteur secret de bien des activités qui ont paru avec éclat. Il a tout fait pour essayer d'unir l'Église anglicane et l'Église catholique. Mais c'est terrible ce que l'Église catholique a fait à plusieurs occasions en promulguant des choses, comme le dit le chanoine Roger Greenark, qui était à la cathédrale de Chichester. Il faut pourtant reconnaître que les Anglicans ont une immense dette de reconnaissance envers M. Portal, dit-il, Pour ceux d'entre eux qui étaient ouverts à l'écuménisme et au catholicisme, il était en effet bien tentant de conclure que le dialogue avec Rome entraînait inévitablement pour eux humiliation et frustration, et de se dire à quoi bon que la porte semble s'entrouvrir si c'est pour mieux se la voir claquer au nez. Et la liste des échecs est longue. Condamnation par le Saint-Office en 1864 de l'Association pour la promotion de l'unité de la chrétienté, créée par un groupe d'anglicans et de catholiques romains en 1857, ça date pas d'aujourd'hui. Et ce chanoine ajoute la promulgation de la primauté de l'infaillibilité du pape en 1870, ça jouait, c'était mal compris, l'infaillibilité du pape. Pourtant, c'est que la guerre a surgi, puis on n'a pas pu définir vraiment la place des évêques. Enfin, les réactions soulevées par la campagne de M. Portal et de Lord Halifax, suppression de la revue anglo-romaine, la bulle apostolique courée, et par la suite la condamnation apparente des conversations de Malines dans la bulle Mortalium Animos. Alors les anglicans se plaignent de tout ça. Mais par contre, il y a eu toujours des rapports entre l'Église anglicane et l'Église catholique, jusqu'à tout récemment, je crois. Il y a eu des possibilités d'union qui ne se sont pas accomplies. Le cardinal Mercier, qui avait beaucoup travaillé avec lui et dont je vous ai parlé le 23 janvier dernier, est mort quelques mois avant M. Portal. Il est mort le 23 janvier, M. Portal le 19 juin 1926. Et puis Lord Halifax, lui, est mort le 22 janvier 1934. La veille, il avait dit « Ah! » S'il venait un grand pape qui dise « Oublions le passé, allons vers la haute mer. » Que c'est triste ces séparations. Séparations, à mon sens, effroyables. Si vous voulez lire quelque chose de fantastique sur M. Portal, je vous recommande le livre énorme de Régis Ladouce. Oh, je recommande pas ça à tout le monde. C'est énorme, c'est plus de 500 pages. Mais admirablement bien écrit. L-A-D-O-U-S, Ladouce, « Monsieur Portal et les siens », paru aux éditions du Cerf, avec une préface d'Émile Poulain. C'est passionnant à lire. Quand on se met là-dedans, on s'aperçoit qu'il faudrait le lâcher à un moment donné pour faire autre chose.